Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Voilà, 9h08, toute la semaine, juste après le journal, nous aurons le plaisir de retrouver toute l'équipe de Laissez-vous tenter dans un instant. Nous allons jeter un œil à notre plateau télé du soir avec Isabelle Morini-Bosque et puis on va vous souvler des idées de cadeaux de dernière minute, des bandes dessinées avec Arnaud Mulpa, des livres jeunesse avec Laurent Marsic et puis des disques de la musique classique avec Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
Et donc un point pour commencer sur les audiences du week-end.
Rapide, vendredi, Arthur se permet tout et surtout d'être en tête devant la rediff des Petits Meurtres d'Agatha Christie sur la 2, mais 400 000 téléspectateurs d'écart seulement. Samedi, Le Polar de la 3 est comme d'habitude en tête des audiences devant les 12 coups de Noël de la 1, 4,6 millions contre 4 millions. Quant à hier, bah, L'Âge de glace, Les Lois... C'était, je ne sais plus lequel.
Le cinquième.
Eh bien, 5 600 000 téléspectateurs contre 3 millions pour l'inusable Vera sur la 3. Voilà, un point d'audience, un point c'est tout, on en reste là.
Alors, trois programmes ont retenu votre attention. On va commencer par Témoin à charge sur la 3.
Excellent polar de la BBC dans lequel un jeune serveur est accusé d'avoir tué une riche quadra esselée.
Emily French, et même si la bonne ne le dit pas, je suis sûr qu'ils en... Elle lui achète des costumes, des chaussures, tout ce qu'il veut. C'est total. Il est complètement un zéro.
J'adore cette terre qui revient durant toute la fiction. C'est adapté d'une nouvelle d'Agatha Christie des années 20. C'est excellent, mais c'est aussi joyeux qu'une feuille d'imposition. C'est vraiment une curieuse date de programmation. Le programme de la 2, La vie secrète des animaux du village... coproduction avec la BBC toujours, est en revanche enchanteur. Ça montre la cohabitation discrète, voire secrète, entre les hommes et les animaux qui ont décidé de vivre près d'un village du Tarn pour mieux survivre. Sangliers, écureuils, mulots, loirs, abeilles, mésanges et autres drôles d'oiseaux. C'est génial. C'est admirablement raconté par Cécile de France. C'est instructif. Vous saviez, vous, que les poules ronflaient ?
Ah non.
Bah écoutez.
Non.
Leurs œufs sont des proies faciles.
Truqués.
Non.
Leurs propriétaires ont conçu un dispositif pour les protéger. Une vraie forteresse. Sauf que cette nuit, la porte du poulailler est restée ouverte. Bah, le prédateur nocturne a senti leur odeur. C'est une fouine, une femelle. Cet animal qui ressemble à une grosse belette se glisse discrètement dans le poulailler. Un mâle se serait certainement attaqué aux poules. La femelle est plus petite. Les œufs lui suffisent amplement. Elle doit briser la coquille avec délicatesse pour ne pas attirer l'attention. Car à la moindre maladresse...
Voilà.
C'est un peu amplifié quand même. Hein. Oui, on est d'accord.
Elles se sont réveillées. Le bruit est un peu accentué, mais c'est le vrai bruit. Ouais. Donc, harmonie absolue entre le récit, les bruits naturels et la musique qui enfin ponctue et ne pollue pas. C'est formidable. Les scénaristes doivent s'en inspirer. Hein. Tout est extraordinaire, mais m'a beaucoup fait rire un passage avec une fouine toujours. Elles adorent s'introduire sous les capots des voitures pour boulotter les câbles.
Oui.
Parce que l'huile de moteur est souvent faite avec de l'huile de poisson et c'est leur passion. La preuve avec cette fouine qui, en fonction du câble qu'elle boulotte, donne un curieux concert.
Elle devrait faire attention. Plusieurs de ses camarades.
Comme ça pendant
c'est génial.
Je soupçonne les gens de la BBC d'avoir mis la fouine à l'intérieur du capot, mais c'est pour son plus grand bonheur.
Non, c'est-à-dire qu'on a la fouine qui klaxonne et on a la poule qui ronfle. Donc c'est ce soir sur la 2.
C'est ce soir sur la 2, c'est formidable.
Votre dernier choix, Isabelle.
Ah ben, un chef-d'œuvre absolu sur M6, Mary Poppins, dessin animé de 1964, un Oscar pour Julian Andrews. Ni le film, ni l'héroïne n'ont pris une ride. Musique maestro.
Le sucre qui aide la métina à couler, la métina à couler, métina à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la métina à couler, ça vous rend la vie plus belle. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
question.
Ah, mais ouais, ouais. Vous pouvez nous lire à l'envers aussi peut-être, non?
Bah, nous dit après.
Mais oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Et si vous le dites à l'envers, bah, ça oui. Vous donne Dosius, Aliex, Christic, Fragile, Cali, Super. Mais c'est tout de même aller un peu loin.
Indubitablement.
Voilà.
Indubitablement. Mais bien sûr, attendez, mais je le connais bien sûr celui-là. Et j'ai pas encore vu le deuxième, mais enfin bon, je vais regarder sur M6 ce soir
moi,
et puis voilà.
C'est ça le chef-d'œuvre.
Pour la suite des vacances. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, on va parler de BD avec Arnaud Mulpa. Encore des idées de cadeaux pour les dernières heures avant Noël.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Jérôme Chapuis.
Et donc, comme promis, quelques idées de cadeaux de dernière minute avant d'aller au rayon jeunesse. Arrêtons-nous au rayon bande dessinée avec vous, Arnaud Mulpa. Bonjour Arnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous nous proposez tout d'abord un album drôle et émouvant, indélébile, c'est signé Luz.
Oui, qui raconte en 320 pages son histoire de Charlie Hebdo, telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une histoire de dessinateurs, de copains qui doivent sortir chaque semaine un journal poil à gratter. Une aventure pleine de gomme, de mine de crayon et d'encre noire qui débute en fait en 1991. Luz a alors à peine 20 ans. Il débarque à Paris et tombe presque par hasard sur Cabu qui va lui mettre le pied à l'étrier, qui va devenir en quelque sorte son père spirituel. C'est plein d'anecdotes très drôles, le plus souvent autour de la table de rédaction en forme de fer à cheval, mais aussi en extérieur au cours de séances de dédicaces ou de reportages. Exemple, en 1995, Luz décide de suivre la campagne présidentielle de Jacques Chirac, incognito, au sein d'une section locale du RPR. Il se coupe les cheveux, prend la carte du parti, mais il a un problème, comment faire pour dessiner dans les réunions sans se faire remarquer, sans éveiller les soupçons ? Cabu lui explique alors que lui, dans ces cas-là, a toujours un grand manteau, un petit carnet et un feutre et qu'il dessine discrètement la main dans la poche.
Ah, c'est génial.
Luz essaye, sauf que ça ne ressemble à rien. Donc la seule solution qu'il trouve, c'est qu'à chaque fois qu'il veut saisir un visage, un instantané, il file aux toilettes, ce qui fait que pendant des semaines, au RPR, les gens étaient persuadés que le nouveau militant souffrait de troubles urinaires. Ses potaches sont parfois très émouvants, comme lorsque Luz raconte les cauchemars ou les insomnies qu'il continue de faire. Ouais. Ça s'appelle donc Indélébile, je vous le recommande vraiment, c'est sorti chez Futuropolis.
Alors il y a une autre idée, Arnaud, qui fera plaisir à tous les tintinophiles, Les Tribulations de Tintin au Congo, et c'est signé Philippe Godin.
Oui, grand spécialiste de l'œuvre d'Hergé, qui a retrouvé dans les archives de Moulinsart une version inédite de Tintin au Congo, sortie en 1940 dans un journal néerlandais. Une troisième version, donc, puisqu'on connaissait déjà la version d'origine parue en noir et blanc à partir de 1930 dans le journal Le Petit 20e, avec un dessin encore assez grossier. On connaît tous aussi l'album en couleur sorti en 1946, là entièrement retravaillé par Hergé. Et donc, grâce à Philippe Godin, on découvre cette version intermédiaire. Non seulement l'album en tant que tel, mais aussi plein d'explications sur l'évolution du travail d'Hergé, son rapport à l'Afrique notamment.
Oui, effectivement, parce que tout ça a fait l'objet de nombreuses polémiques. Hein.
Et on apprend, grâce à Philippe Godin, qu'après Tintin au pays des Soviets, Hergé n'avait pas du tout l'intention d'envoyer son héros en Afrique. L'idée lui a été, disons, fortement suggérée.
Hergé avait envie de mener directement Tintin en Amérique pour faire le pendant, dans le fond, hein, la Russie communiste et l'Amérique capitaliste. Mais l'abbé Wallé, qui était son directeur, ne l'entendait pas de cette oreille et estimait qu'il devrait plutôt d'abord faire un détour par le Congo, hein, notre belle colonie où les Belges ont une œuvre civilisatrice extraordinaire. Et donc Hergé s'est plié à ce vœu-là en se disant « bon, je ferai l'Amérique après ».
Il n'avait jamais mis les pieds au Congo.
Non, Hergé n'a jamais mis les pieds au Congo, pas plus d'ailleurs que dans d'autres pays, ni au pays des Soviets, ni sur la Lune. Non, mais Hergé travaillait comme ça de manière assez assidue et avec une documentation. Évidemment, en 1930, on est encore en plein dans la période de la colonisation, et il a le sentiment, et moi je partage ce sentiment, que Hergé fait de l'humour bon enfant. Il y a bien entendu des relents de paternalisme, mais il n'y a pas une condescendance, il n'y a pas une méchanceté, il n'y a pas d'agressivité. Autrement dit, il n'y a pas de racisme.
Voilà, Les Tribulations de Tintin au Congo, l'album inédit et les explications de Philippe Godin, l'éditeur Casterman.
Un dernier choix, Arnaud, ce très beau livre signé Christophe Chabouté.
Oui, un auteur qu'on aime bien ici, RTL. On l'avait récompensé il y a quelques années pour son album consacré à Henri-Désiré Landru. Son nouvel ouvrage s'intitule Bricole, Gribouillis et Fond de tiroir. Où l'on prend conscience qu'on n'a pas tous les mêmes choses qui traînent au fond de nos tiroirs. Chez Chabouté, c'est vraiment plein de merveilles, en noir et blanc ou sépia, des croquis, des recherches, vraiment des dessins sublimes qui nous emmènent à la Nouvelle-Orléans ou à New York. Des façades fascinantes aux arrière-cours délabrés. On découvre aussi toute une série de portraits de jazzmen ou de rockers burinés comme Keith Richards, Nick Cave, Tom Waits. Si vous regardez bien les dessins, vous les entendrez presque jouer. C'est un très bel ouvrage dont la préface est signée de son copain Charles-Élie Couture, qui s'y connaît lui aussi en dessin et musique. Christophe Chabouté, Bricole, Gribouillis et fond de tiroir, c'est paru chez Vendouest.
Voilà quelques belles idées de cadeaux de dernière minute. Merci beaucoup Arnaud Mulpa. Alors je me tourne maintenant vers vous, Laurent Marsic. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Au rayon littérature jeunesse, à présent, quelques idées de cadeaux que vous nous avez dénichées. Alors premier choix, en mai 2017 sortait un roman qui est rapidement devenu un best-seller. On avait reçu son auteur ici dans Laissez-vous tenter, La Tresse de Laetitia Colombani. Le voici décliné en livre jeunesse.
Et qui, dans la catégorie premier roman, est sans doute le plus gros succès de ces deux dernières années, avec 800 000 exemplaires vendus, 500 000 seulement en poche. Et si le roman raconte le destin de trois femmes unies par une tresse, le livre jeunesse se concentre sur la première histoire du roman, celle de Smita en Inde. C'est une Dalit, une intouchable. Elle ne fait partie d'aucune caste. Elle n'est pas pure. Les intouchables sont rejetés par les autres. Smita est réduite à nettoyer les toilettes des fermiers. Simple trou dans le sol. On récure les toilettes de mère en fille dans la famille, nous raconte Laetitia Colombani. Dans cette puanteur, l'espoir, c'est sa famille, sa fille, Lalita, pour qui Smita nourrit un rêve, un grand rêve. Qu'elle entre à l'école et apprenne à lire, écrire et compter pour avoir une autre vie que celle auquel le destin la condamne. La suite, c'est une fuite grâce à un trésor, leurs tresses, leurs cheveux. Elles vont en faire don pour s'offrir donc une nouvelle vie loin de tout ça. Voici donc la version pour les enfants de cette histoire, illustrée par le pinceau si talentueux et délicat de Clémence Paulet, dont
bon,
voilà, les illustrations colorées jaillissent en pleine page. La Tresse, immense succès, on le disait, c'est en cours d'adaptation au cinéma, avec à la réalisation Laetitia Colombani, c'est son premier métier. Elle part en Inde justement à la fin de la semaine pour les premiers repérages, m'a signalé Bernard Lehu. Pas de casting pour le moment. La Tresse est publiée chez Grasset Jeunesse.
Alors un autre livre, alors pour le coup, dans l'actualité, même s'il est sorti à la fin de l'été, le titre c'est Brexit Romance.
Là encore, une histoire de femme sous la plume de Clémentine Beauvais. Quel talent, quelle intelligence chez cette jeune autrice de 29 ans. Nous sommes en juillet 2017, un an que le Royaume-Uni a voté en faveur du Brexit. C'est une comédie, un choc de culture, quand une jeune soprano française et son prof croisent le chemin d'un lord anglais et de Marguerite, qui vient de créer un site internet secret pour organiser des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ces derniers conservent leur passeport européen. C'est un livre où on parle anglais, français, franglais. C'est à la fois acide et drôle. Clémentine Beauvais.
Pour moi, c'est totalement un passage de comédie romantique. Ouais. Alors après, de comédie romantique, en allant assez loin, puisque pour moi, c'est aussi un pastiche de Jane Austen et des comédies romantiques vraiment du 19e hyper britannique, avec des marieuses, des entremetteuses, etc., façon Emma. Et donc, c'est vraiment là-dedans que je suis allée puiser. Et en même temps, à travers le rire, on peut quand même faire pas mal de satire sociale. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. C'est un moyen de parler de ce sujet politique-là, mais sans verser dans l'explication didactique. Quoi.
C'est un livre jubilatoire et drôle. Clémentine Beauvais s'amuse en promenant son histoire dans l'amour 2.0, dans l'extrême droite décomplexée, dans deux sociétés qui doutent, le tout avec un fond d'engagement amoureux. Brexit Romance est édité chez Sarbacane, le prix 17 euros.
Enfin, Laurent, un peu de musique pour terminer.
Pour occuper les plus petits pendant les vacances et même les plus grands. Voici un livre de recettes pas comme les autres, car ici les recettes sont des chansons. On doit l'idée à la moitié d'un duo de la chanson pour enfants. Vincent Guigue, qui habituellement chante avec son frère Pierre, ce sont deux Montiliens, originaires donc de Montélimar.
Ah,
dans ce petit livre disque, les recettes du pain perdu, de la chantilly, des pop-corns, de la pâte à crêpes, ou encore, ça c'est cadeau pour notre ami Steven Bellery qui ne sait pas la faire. Voici la recette de la mayonnaise.
T'as besoin que d'un jaune d'œuf, garde le blanc pour la chanson neuf, un peu de sel, poivre et de moutarde, puis de l'huile, vite on s'attarde. Mets le jaune dans le récipient, sans laisser passer du blanc. Là, chacun sa technique, c'est le moment le plus critique. Ne vous déplaise, nous monterons la mayonnaise le temps d'une chanson.
Appelle Miam, 10 recettes en chanson, édition Chakiroul, le prix 18 euros.
Et j'ai bien remarqué le petit tacle au passage à Steven Bellery. Vous nous rappelez la blague qui circulait cette semaine, c'est ça, voilà, la mayonnaise, il ne sait pas la faire, bien qu'il connaisse
beaucoup de batteurs.
Voilà, bon, Steven Bellery, désolé, c'est Noël. A tout de suite, on va retrouver un peu de musique, mais de la musique classique cette fois-ci, ce sera avec Charlotte Latour.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Jérôme Chapuis.
Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Alors c'est bien connu, hein, la musique adoucit les mœurs. Pour passer de bonnes fêtes, vous nous avez concocté un bien joli programme pour ceux qui cherchent encore, on en connaît, des idées de cadeaux glissées dans leur hotte du Père Noël. Alors vous nous proposez trois albums, c'est ça ?
Tout d'abord, une pépite, un album dont nous avons déjà parlé sur cette antenne, le dernier en date de la mezzo-soprano romaine Cecilia Bartoli. Il s'agit d'un album Vivaldi, le deuxième de la diva, après un premier paru en 99 qui s'était vendu à 700 000 exemplaires, un record dans le classique. Alors celui-ci, vous l'entendez, est moins explosif, plus en retenue, plus intime. À l'image de la pochette de l'album, une photo sobre en noir et blanc, gros plan sur le visage lisse et doux de la chanteuse. Un album aux notes feutrées où vocalement les passages des graves aux aigus et la tenue du souffle sont prodigieux. Cecilia Bartoli s'est entourée d'une troupe de Vivaldiens, l'ensemble Mathéus et son chef, grand amoureux des voix, Jean-Christophe Spinozzi. Cet album Vivaldi est paru chez Decca, une valeur sûre. C'était d'ailleurs notre classique d'or du mois de novembre.
Alors, autre voix lyrique masculine, cette fois masculine et mexicaine, et celle du ténor Rolando Villazón.
Pour un album de Noël, je sais qu'Isabelle Morini-Bosque et beaucoup de nos auditeurs d'ailleurs en raffolent. Le disque s'appelle Feliz Navidad. Voilà, joyeux Noël en espagnol.
Bien sûr.
Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Alors la voix est parfois un petit peu empruntée, elle reste très lyrique, hein. Elle mériterait de jazzer, de groover un peu plus. Les arrangements, on va dire sirupeux, sont un peu kitsch, hein, mais on s'en fiche, c'est Noël.
Ben
et
oui,
ça reste un plaisir d'écouter ce répertoire. Et dans autant de langues différentes, hein, espagnol, anglais, allemand, français, rien ne résiste à notre ténor mexicain.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen.
Feliz Navidad de Rolando Villazón, album Deutsche Grammophon.
Et alors pour ceux qui aiment le classique sans trop s'y connaître, qui ne savent pas vers quoi s'orienter, vous avez un double album qui a retenu votre attention.
Oui, une sorte de best-of pour ceux qui ne savent pas comment entrer dans le monde du classique. Révisons nos classiques, paru chez Erato et inspiré du site internet du même nom. L'idée, c'est de rendre le classique accessible à tous en rassemblant un florilège d'airs archi connus et toujours irrésistibles. La chevauchée des Valkyries, par exemple.
Oui.
Wagner, utilisé au cinéma dans Apocalypse Now, on l'a tant entendu qu'on en oublie de vraiment prêter l'oreille. Écoutez comment les cordes se répondent, on dirait qu'elles se lancent des éclairs, comment les vents derrière annoncent une ambiance martiale. C'est magistral, voici le Philharmonique d'Oslo, dirigé par Marius Janssens. Allez, changeons d'époque. Ouais. De Wagner en 1854, passons à Gluck en 1762 avec cet extrait d'Orphée et Eurydice par Edgar Moreau au violoncelle et Pierre Ivodic au piano. Chef-d'œuvre aux interprètes triés sur le volet sont compilés sur ce double album. Révisons nos classiques chez Erato.
Merci beaucoup Charlotte Latour. J'ai l'impression que vous avez même réussi à faire pleurer Bruno Guillon qui est en train de se préparer pour prendre le relais dans un instant avec Caroline Diamant. Il sera là pour le grand quiz. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Dans un instant, Bruno Guillon et Caroline Diamant.
RTL. Noël approche. Êtes-vous prêts? Et de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL.
Forcément bon ce Noël sur RTL. On a le plaisir de vous retrouver demain, toute l'équipe de Laissez-vous tenter, hein, juste après le journal de 9h. On aura un invité exceptionnel, un beau cadeau, puisqu'il s'agira d'Olivier Barrault, le réalisateur des Tuches 3, le plus gros succès français au cinéma cette année.
Des frites.
Vous connaissez vos classiques.
Je suis calé cinéma. Vous m'auriez parlé de Visconti, j'avais un ou deux détails sur...
Voilà. Là,
vraiment, des frites, des Tuches, je marche.
Mais par contre, la musique d'Apocalypse Now, ça, il n'y a pas de problème, Bruno Guillon.
Alors, je trouve que c'est totalement raccord avec l'esprit de Noël. Vraiment, on ne met pas assez de Wagner.
Ce soit plutôt une pierre dans notre jardin sur notre façon de faire notre émission.
Je ne comprends déjà pas ce qu'elle dit et
moi
l'émission n'a pas commencé.
Comment vous dire, bonne journée et surtout bon courage à tous les deux.
Merci Jérôme, on vous retrouve demain matin avec toute l'équipe.
Vous écoutez RTL.